Bonjour Mathie Diop.
Bonjour.
Votre film Atlantique est en salle aujourd'hui. C'est un superbe film. On l'a beaucoup aimé au matin. On n'est pas les seuls d'ailleurs, puisqu'il a obtenu le Grand Prix à Cannes qui signe l'originalité d'un film, son caractère novateur. Je vais essayer de le résumer à grands traits. Dans une banlieue populaire de Dakar, Ada et Souleymane vivent une histoire d'amour passionnée, mais Ada est promise à un autre homme bien plus fortuné. Souleymane, qui travaille depuis des mois sur un chantier sans recevoir de salaire, prend la mer avec d'autres jeunes ouvriers dans l'espoir de gagner l'Espagne et y trouver une vie meilleure. Désespérée, Ada se marie malgré tout, mais les noces sont perturbées par un mystérieux incendie. Alors qu'un jeune policier mène l'enquête, une étrange fièvre s'empare des filles du quartier. C'est en quelque sorte, avez-vous dit, non pas l'histoire d'Ulysse, mais l'histoire de Pénélope. Pénélope qui reste donc dans l'attente de son amoureux. Pourquoi avoir décidé de raconter cette histoire, l'envers de l'histoire traditionnelle, Mathie Diop?
Parce que c'est je pense que c'était une manière d'écrire le film à partir de mon point de vue aussi, des sensations que j'ai moi-même éprouvées lors du premier court-métrage que j'ai réalisé en 2008, qui s'appelle Atlantique, du même nom mais avec un S, et où j'ai été le témoin assez proche d'une situation ultra sensible, extrêmement complexe et délicate, où beaucoup de jeunes partaient en mer, beaucoup de jeunes Sénégalais partaient par les côtes sénégalaises en mer pour rejoindre l'Espagne, et que c'est vraiment à partir des sensations, de ce que j'ai pu ressentir à partir de confidences que certains garçons m'ont faites autour de leur propre projet de partir en mer, ou alors au moment où ce film que j'ai consacré toujours en 2008, où Sérigne, un jeune homme, raconte à moi et à ses deux meilleurs amis sa traversée. Je l'ai d'abord raconté en effet du point de vue d'un acteur des faits, quelque part, de quelqu'un qui l'a vécu. J'avais besoin à l'époque de faire entendre une histoire à partir du point de vue de quelqu'un qui l'a vécu et qui se raconte. C'est aussi la question de la réappropriation de son récit. Et là, c'est vrai que ça me semblait important d'accepter aussi l'idée que ces jeunes qui ont disparu en mer et qui ne reviendront plus, comment raconter leur histoire? Comment raconter le point de vue de quelqu'un qui n'est plus là, qui a disparu, et du coup le raconter à partir de ce qui reste, de celle qui reste? C'est la seule... À vrai dire, c'est la seule manière de le raconter.
Et ces départs, ils sont complètement
tus. Pour moi,
tus.
En tout cas.
Ces départs, ils sont complètement tus au Sénégal. C'est une réalité qui est masquée, vous.
Alors, il arrive que les familles, soient complices aussi de ces départs. Mais dans beaucoup de cas, en effet, et comme vous le dites, c'est culturel. Ce sont pas des choses qui se disent. Beaucoup de jeunes sont partis, en effet, sans le dire à leurs sœurs, à leurs amis, à leur mère, à leur maîtresse, à leur femme, et n'appelaient qu'une fois arrivés en Espagne. Ou alors ils n'appelaient jamais puisqu'ils disparaissaient en mer.
Et c'est justement, en fait, le témoignage de cette absence que vous racontez, avec un début de film qui marque la manière dont ce pays est aux prises, à la fois avec un capitalisme mondialisé et aussi une grande pauvreté. Il y a cette tour, alors je crois que le projet originel s'appelait la tour Kadhafi, on l'a surnommée ainsi, oui. Parce qu'il devait y avoir des capitaux libyens, et puis celle-ci n'a pas pu se faire, mais elle existe malgré tout dans votre film. Là aussi, c'est un témoignage d'une absence. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Mathie Diop, cette tour?
Pour moi, elle incarne un futur qui ressemble davantage à un mirage, à une sorte de fantasme en lévitation, quelque chose d'inaccessible, qui est tout sauf ancré dans une réalité, qui est tout sauf ancré dans un présent qui fonctionne, dans le sens où le film s'ouvre sur ce chantier dont les ouvriers ne sont pas payés, ne seront pas payés, puisque ça fait déjà 3 mois qu'ils attendent leur salaire. Là, on comprend que c'est le 4e mois qu'ils ne le recevront pas. Et très vite, on découvre cette tour, la ville future qu'ils sont en train de construire, et pour laquelle ils ne sont pas payés. Ville dans laquelle ils n'auront pas leur place. Et surtout, un travail pour lequel ils ne sont pas payés.
On va écouter un extrait de votre film, Mathie Diop, justement. Ce moment où les ouvriers réclament leur dû. Alors, c'est une scène qui se déroule dans l'Algeco du chantier. Il y a les ouvriers qui réclament donc leur salaire et puis les contremaîtres qui sont là, qui manifestement sont aussi victimes que les ouvriers, qui expliquent que l'argent n'est pas là. J'ai choisi cette scène d'abord pour qu'on entende que c'est du Wolof, c'est cette langue traverse le film. C'est une langue, je crois, que vous ne parlez pas, que vous avez apprise pour les besoins du film, Mati Diop.
Oui, c'est une langue qui ne m'a pas été transmise enfant, mais que j'ai toujours entendue d'abord chez moi, puisque mon père la parlait à Paris, et puis lors des différents allers-retours que j'ai effectués entre Paris et le Sénégal enfant pour voir ma famille là-bas. C'est une langue que avec laquelle j'ai quand même grandi, qui est comme une sorte de musique qui m'a accompagnée tout au long de mon enfance. Mais en effet, je la parle pas, je la comprends. Je commence à la comprendre. Relativement bien, mais c'est le troisième film que je tourne à Dakar, en effet, en Wolof, sans moi-même parler la langue. Mais comme j'ai décidé jusqu'à présent, en tout cas, d'engager mon cinéma là-bas, après tout, c'est mon problème si je parle pas la langue.
Et donc, c'était évident pour vous qu'il fallait tourner dans cette langue-là.
Les personnages que je filme, oui, c'est la langue qu'ils parlent et c'est la langue qu'ils doivent, avec laquelle ils doivent absolument s'exprimer dans les films. Et pour moi, c'était une évidence absolue d'être au plus près de l'humanité, de l'imaginaire. De mes personnages dans leur langue, évidemment, c'était très important. Et alors, ça, en fait, il y a aussi eu des films. On a vu des films sénégalais tourner en français, c'est arrivé, pour dire qu'on revient de loin quand même par rapport aux troubles que peuvent provoquer les vestiges du colonialisme.
Et comme vous avez choisi ces acteurs là-bas, qui pour la plupart n'étaient pas du tout des acteurs professionnels, Mama Sané qui incarne Ada, cette jeune fille qui est amoureuse d'un homme et que l'on force à se marier avec un autre.
Qu'on force, il s'agit plus d'un arrangement global en fait. C'est pas un mariage forcé comme on. C'était aussi l'idée de parler de ce mari Omar auquel on accorde aussi davantage d'importance, à la fois parce qu'il a plus d'argent, mais surtout parce qu'il vient d'Europe. Il est lui-même un immigré. Et c'est aussi le fait qu'il, du point de vue de ce quartier, en tout cas de cette famille modeste, on accorde davantage de valeur à Omar parce qu'il vient d'Europe. Et c'était aussi une manière d'amplifier le désespoir de Souleymane, l'amoureux d'Ada, qui est à la fois pas payé au chantier et qui est amoureux d'une jeune femme qui accorde davantage de valeur à celui qui revient d'Europe.
Elle est en tout cas contrainte en ce sens qu'on lui dit c'est la chance que tu as de te marier avec cet homme qui fait des allers-retours avec l'Italie.
Et tu n'as pas vraiment les moyens de refuser, tu ne peux pas te le permettre en fait. Et Ada, au début du film, est dans une sorte de, quelque part, de rapport marchand elle-même. C'est une stratégie de survie. Pour Ada, la stratégie de survie, c'est d'épouser cet homme. Et pour Souleymane, c'est de prendre la pirogue.
Il est question, dès lors, de la condition féminine, de cette condition féminine qui est une condition, alors, forcée, le terme était impropre dans ce sens, mais en tout cas contrainte, ça c'est évident, on la soumet à un examen de virginité, elle est obligée de se marier avec cet homme qu'elle n'aime pas d'ailleurs, sans divulgâcher ce film, on voit très bien que ça n'est pas du tout son choix, et là aussi il y a l'expérience de la sororité avec une sorte de solidarité entre ces femmes qui sont soumises à un destin qu'elles n'ont pas choisi, Mati Diop.
Oui, l'idée c'était vraiment, donc comme je disais, à partir du de partir d'une Ada qui n'est absolument pas dans le contrôle de sa propre vie, de ses propres désirs, et qui, au fur et à mesure de son évolution, d'abord par la disparition subite de Suleyman, puis par l'attente que ça génère, les doutes, de voir sa réalité, sa vision d'elle-même et de ce qui l'entoure se dérégler, et quelque part ses amis vont prendre une place différente aussi dans son quotidien, à la fois au mariage où il y a un personnage qui émerge très fort, Dior, qui va devenir une figure d'une femme, voilà, beaucoup plus affranchie d'un certain nombre de codes. Et que ce soit cette femme, Dior, figure libre, ou quelque part, sans qu'Ada le sache encore, le feu qui est mis à son mariage, le retour en fantôme de son amoureux, c'est aussi quelque chose qui va obliger Ada à se positionner par rapport aux enjeux et aux choix qu'elle doit faire. Elle va devoir trouver le courage de vivre pour elle-même, le courage de vivre en fait. Suleyman revient aussi pour insuffler ça en elle.
Il y a un feu mystérieux et il y a un commissaire qui mène l'enquête, puisque dans ce film, il y a aussi une part de film policier. On en écoute un extrait, Mati Diop.
Ah, commissaire. Ouais. Ça va, ouais, bien. Ouais, ça va.
Non, parce que même dame comme vous, sont normales.
Non, le dalle, commissaire. Normal, à mon bien, mais le dalle, le dalle.
Est-ce que t'as vu le médecin?
Ouais, le dalle, mais le dalle, commissaire. Tout est nickel.
Hein?
Tout est nickel.
Okay. Inspecteur Issa Diop, notre jeune vedette, il va charger de l'enquête.
Ok.
Junior, le propriétaire des lieux. Journal Pierre, le dossier. Pierre, non, le dis. On va prendre tous les témoignages. Hein. Je vais mettre un ordre de l'année. Regarde. Junior,
je vais mettre le droit. Ah, d'accord.
Merci. Les gars.
Alors, inspecteur, arrêtez-moi.
Oui, ça va, ça va. Non.
Un extrait de votre film, Mati Diop, Atlantique, il est en salle. Aujourd'hui, un commissaire mène l'enquête pour comprendre d'où vient le feu.
Oui, c'est un moment de bascule dans le film très important. Voilà, c'est le film se passe jusqu'à présent du point de vue d'abord de Suleyman qui part en mer très tôt, ensuite d'Ada, et tout d'un coup le film bascule sur le point de vue de cet enquêteur qui vient de se réveiller d'une longue nuit visiblement et qui arrive voilà dans la chambre d'Ada et de son nouveau mari qui vient d'être dévasté par un incendie. Et c'est à travers cette enquête que, pour le coup, rationnelle, pragmatique, que la dimension... C'est par l'ultra pragmatique, rationnel, que finalement la dimension fantastique, elle émerge.
Et le film devient effectivement un film fantastique. Pourquoi avoir fait ce choix, Mati Diop?
C'est en fait le fond et la forme du film sont apparus comme une seule et même chose. Parfois, on a une histoire très précise qu'on souhaite raconter, puis la forme met du temps à apparaître. Et là, il a tout de suite été question pour moi d'un film fantastique dans la mesure où le film se consacre à une jeunesse disparue en mer, à une jeunesse fantôme. Et tout ce que j'ai essayé de raconter depuis le départ, c'est à quel point, justement, cette jeunesse, en ayant disparu, en n'ayant laissé aucune trace dans l'océan, en donnant pas, du coup, de nom à cette tragédie, devient omniprésente, revient hanter l'ensemble du quartier, ces femmes. Et c'est l'idée de ces fantômes qui me prennent naissance en nous, d'un film sur la hantise et sur l'idée qu'on fait revenir nos propres fantômes. Et même s'il s'agit de possession dans le film, de femmes qui sont possédées par l'esprit des garçons auxquels elles étaient attachées mort en mer, on pourrait aussi se raconter que c'est peut-être une hallucination collective après tout. C'était peut-être la nécessité de les faire revenir pour... c'est peut-être un refus de ce sort. C'est peut-être une manière de transcender, de refuser que ces disparitions représentent une fin et qu'à travers ces femmes, une continuité, une revanche en l'occurrence, puisqu'ils reviennent aussi pour réclamer leur argent, soit possible en fait.
Et oui, c'est un appel à la justice. Et c'est un appel finalement à l'émancipation de ces femmes sénégalaises à qui vous donnez une voix, même si elles se taisent, même si les disparues sont disparues sans laisser bien souvent de traces. Mati Diop, c'est ça que vous avez voulu faire ?
Absolument, en tout cas, principalement sur Rada. Ensuite, les filles autour sont comme un cœur, comme dans la tragédie grecque. Mais au cœur, c'est vraiment le récit initiatique d'une jeune fille pris entre la disparition subite de son amoureux en mer et son retour en fantôme. Et à l'intérieur de ce départ et de ce retour fantôme de Souleymane, son amoureux, on assiste à un récit initiatique, une odyssée de cette jeune fille dont le réel se dérègle d'abord et qui va devoir, comme je disais, affronter ce réel, le composer avec, trouver sa voix à l'intérieur des codes avec lesquels elle doit dealer dans le but de mener une vie de plus en plus en accord avec ses désirs, avec qui elle est vraiment. Et Souleymane revient aussi pour l'aider à se libérer et d'avoir le courage de vivre sa vie.
Comment vous vous y êtes prise, Mati Diop, pour filmer cette histoire qui n'est pas du tout la vôtre, pour réussir à donner une voix à des gens qui ont un destin très différent du vôtre ?
Je pense que j'ai sans doute raconté à travers la trajectoire d'Ada, qui après tout est... Le film a beau se passer dans un endroit extrêmement spécifique, Tiaroy, dans lequel j'ai en effet pas grandi. Je pense que je n'ai pas écrit cette histoire pour rien, c'est qu'il y a beaucoup de moi-même dedans, et qu'on peut écrire un personnage qui vit au bout du monde, très, très éloigné de soi, et qui
est
à travers lequel on se raconte absolument aussi.
Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce film ?
C'est difficile à...
C'est vous qui m'y avez incité.
Oui, mais c'est peut-être que j'ai aussi, moi aussi, utilisé ce premier long métrage comme mon rite initiatique.
Mais parce que, a priori,
un rite de passage,
votre vie est au contraire, en tout cas en apparence, une vie de créatrice plutôt libre. Vous avez mené à bien ce projet, il est couronné de succès, puisque ce film Atlantique a eu le Grand Prix au Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'il y a malgré tout de contraint dans votre trajectoire, sauf si ça n'est pas du tout cela justement le point commun entre Ada et vous ?
Mais je pense que c'est comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'était aussi une manière de vivre par procuration une adolescence africaine, sénégalaise, dakaroise que j'ai pas vécue. Et je pense que votre question me fait penser au rapport à l'identification. C'est à la fois offrir un film au monde qui soit la possibilité pour un certain public noir de s'identifier à des personnages noirs, mais de permettre à n'importe quel spectateur de s'identifier à une jeune fille noire. Voilà.
Mati Diop, Atlantique, votre film sur tous vos écrans aujourd'hui. C'est un très beau film. On se retrouve dans quelques minutes. Vous converserez avec une romancière, Marie Darrieussecq. Elle publie La mer à l'envers aux éditions POL, avec beaucoup de points communs entre vos deux œuvres. 8h sur France Culture. Très bon réveil.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
Et nous sommes en compagnie de Mati Diop, la cinéaste dont le film Atlantique est dans les salles aujourd'hui avec une très bonne critique. Je vais même en citer un extrait, une critique de Libération, élégiaque et splendide. Mati Diop suit le destin d'une jeune dakaroise en lutte contre les pressions politiques, sociales et religieuses du pays qui voit son amoureux secret s'embarquer pour un exil fatal. Et je reçois une romancière, Marie Darrieussecq. Bonjour. Vous publiez un roman, La mer à l'envers. C'est l'histoire de Rose, une psychologue quadragénaire qui part en croisière sur la Méditerranée avec ses enfants, un voyage pour changer d'air et prendre du recul sur son mariage. Au milieu de la nuit, le paquebot croise une embarcation de migrants et recueille à son bord les naufragés. C'est cette histoire que vous racontez donc dans ce roman, La mer à l'envers, chez POL. Et je crois que l'une des inspirations de ce roman se trouve dans un film de Mati Diop.
Disons que
On ne peut pas parler d'autre chose que des migrants, comme on les appelle en ce moment. Et le film de Mathilde, le moyen-métrage « Mille soleils » que j'ai vu, c'était quand, en 2015, je pense.
Il est sorti en Il est sorti en 2015,
en 2015
absolument.
Faisait partie des films fondamentaux, je crois, sur cette question. Et m'a convaincue que pour arriver à s'emparer de ce sujet et à en dire quelque chose de pertinent, en fait, il fallait mettre la barre très très haut. Et j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce roman. Et ce film, Mille soleils, est aussi un très très beau film élégiaque d'amour. Et je crois qu'il faut une espèce de ligne claire comme ça pour porter cette migration de masse. Enfin, il faut s'intéresser aux individus, voilà, à des instincts singuliers.
Et justement, quand vous dites qu'il faut mettre la barre très très haut dans les difficultés que vous avez eues pour écrire ce roman, vous avez mis plus longtemps que les autres à l'écrire, Marie Darrieussecq.
Oui, bah, j'avais des problèmes éthiques et esthétiques. D'abord, le sujet nous dépasse tous. Je voulais aussi rendre compte d'un certain désarroi. Je voulais pas écrire le roman de la bonne âme qui recueille son migrant. Je voulais vraiment pas faire ça. Je voulais rendre compte de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, il n'y a pas que leur destin à eux, qui est souvent tragique, à ces voyageurs, sans argent, sans papier. Il y a aussi notre destin à nous. Et on est embarqués sur la même planète. Et je voulais rendre compte de ça. Et c'était extrêmement difficile à faire, en fait.
Il est question d'embarcation, de mer. Alors là, cette fois-ci, la métaphore, ça n'est plus la terre ferme avec une tour, la tour Kadhafi, comme dans votre film Mati Diop. Ce sont deux embarcations, l'une est monstrueuse, c'est un paquebot de croisière, et l'autre c'est cette frêle embarcation sur laquelle les migrants sont emportés.
La métaphore est presque trop lourde, sauf que c'est comme ça qu'est la planète, qu'est notre monde. Et ces espèces de sommets du capitalisme le plus désinhibé que sont ces paquebots, qui sont vraiment dans une espèce d'absence de vergogne totale. Ça fait que 2-3 ans qu'on les critique, hein, pollution, etc. Et cette petite barque, ils sont exactement dans le même espace géographique. Et moi-même, j'ai fait une croisière, je l'avoue. C'était un voyage de recherche, n'est-ce pas? En 2013, avec mes enfants, et on est passé au large de Lampedusa. Et Lampedusa, à l'époque, c'était vraiment le nom de ce qui se passait. Et j'ai eu une espèce de flash comme ça, vraiment d'évidence, que c'était la même zone géographique absolument, avec la Libye derrière et Marseille devant, et Lampedusa. Et le roman est né là, en fait, de cette espèce d'hallucination géographique, mais qui était la réalité. C'était le même espace.
Oui, vous avez failli appeler ce roman Costa Lampedusa.
Costa Lampedusa, c'était une croisière Costa, n'est-ce pas? Et sur certains, j'ai lu en ligne un peu la presse italienne, et il y a eu deux cas où un capitaine honorable, comme ça, de cette compagnie, a pris à son bord des barques. Donc j'ai regardé comment ça se passait concrètement, où est-ce qu'on accueillait les migrants dans ces énormes paquebots. Mais c'est arrivé que deux fois, apparemment, alors que ce sont les mêmes routes, absolument.
Et donc ce sont deux mondes qui s'entrechoquent, avec d'un côté une famille française comme on en connaît, qui a des problèmes de famille française,
oui,
avec
oui.
Des problèmes de d'iPhone, des
appartements
de
trop petits,
ouais. Voilà. Et puis de l'autre, des gens qui eux ont des problèmes de vie et de mort.
Et de mort, oui. Oui, Rose, mon personnage, est un personnage au fond assez banal, mais je tenais à ça. Elle travaille trop, sa gosse qui a 6 ans est allergique à tout, et en particulier au gluten. Enfin, je fais aussi un petit portrait comme ça d'une certaine classe moyenne parisienne, sympathique, hein, mais assez désemparée. Et Rose, elle a trop de boulot et trop de choses à gérer. Elle pense que ça la concerne pas, tout le reste. Enfin, elle veut croire que ça la concerne pas. Et qu'elle allume la radio et oui, il y a des migrants qui se sont noyés ce matin. Mais c'est pas sa vie, ça. Et en fait, ça va lui tomber dessus. C'est ni une bonne ni une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui va se débrouiller avec ça.
Il y a différents points communs. Et il y a cet objet, le téléphone, que l'on retrouve dans votre film, Mati Diop. Le téléphone qui est un téléphone qui va être offert, que votre héroïne Ada va revendre parce qu'elle a besoin d'argent. Bref, c'est aussi un fil conducteur.
C'est vrai, oui, absolument. Je m'attendais pas à la question du téléphone comme fil conducteur dans mon film, mais absolument, c'est aussi
comme objet de
le
la
véhicule.
Modernité et oui. Comme symbole également de l'indépendance de cette femme.
Absolument.
Ses parents veulent.
C'est aussi
son
le
père.
Véhicule à travers lequel Souleymane, enfin le fantôme de Souleymane va envoyer un message à Ada. Et je trouve que quand elle vend d'ailleurs ce téléphone pour se récupérer du liquide, c'est un moment du film où voilà où l'objet prend encore une autre dimension, ouais.
Ce qui veut dire que finalement dans cette jeunesse, puisque c'est la jeunesse du monde entier qui est aux prises avec le téléphone, il y a donc les enfants de Rose, ils ont besoin d'un téléphone comme tous les enfants français à partir d'un certain âge, on résiste, on a des problèmes, mais ils finissent par avoir leur téléphone. Et puis Younes, qui lui a un autre destin, peut-être pouvez-vous le décrire en quelques mots, Marie Dariussec.
Bah, tous les migrants, les exilés, les voyageurs que j'ai rencontrés, que ce soit au Niger, où ils étaient refoulés de Libye à l'époque, ou bien à Calais, à une heure de Paris où j'habite, tous sont accrochés à leur téléphone comme à leur vie. Enfin, ils ont peut-être pas de papier pour faire ce voyage incroyable, mais ils ont leur téléphone. Et Younes, son téléphone a pris l'eau. Et c'est absolument dramatique. Et donc, Rose lui donne, dans un espèce de geste spontané, le téléphone de son fils à elle. Ce qui va bientôt créer des problèmes terribles, parce qu'un adolescent français sans téléphone. Mais Younes, ce téléphone, il va s'en servir, en fait, il va appeler Rose. Et ça, elle l'avait pas prévu. Et ça donne une dynamique narrative complètement réaliste, en fait, hein. Mais il va l'appeler. Et ça, elle était pas prête à ça. Et ça l'embarque c'est une rencontre, en fait, absolument pas prévue.
Elle maîtrise pas du tout, finalement, cette rencontre. Rose, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête lorsqu'elle se retrouve donc face à ce jeune Younes dont elle arrive mal à situer, finalement, les intentions?
Bah déjà, elle sait pas d'où il vient, Niger, Nigeria, elle sait pas, l'Afrique, pour elle, c'est une sorte de grand pays, elle y connaît rien, bon. Mais comme beaucoup, beaucoup de gens, en fait, elle est face à ce destin singulier de ce gamin qui, à un moment, va vraiment avoir besoin d'elle. Et, récemment, Laure Adler, sur une autre antenne de cette excellente maison, me citait la belle phrase de Derrida, l'hospitalité, c'est l'improvisation. Cette phrase m'a éclairée sur ce que moi-même, ce dans quoi j'avais essayé de trouver un chemin narratif, quoi, romanesque. L'hospitalité, c'est l'improvisation. Et c'est exactement ce que Rose va faire, ou tous les bénévoles que j'ai pu rencontrer à Calais. Recevoir quelqu'un, c'est improviser, improviser, improviser. L'accueil, c'est ça. Et je trouve qu'on, justement, on n'arrive pas du tout à... Le problème de nos gouvernements, c'est qu'ils sont très mauvais en improvisation. Ils veulent absolument légiférer, organiser, etc. Et ils le font pas très bien, à vrai dire. Alors qu'il faudrait retrouver ce sens-là d'une improvisation. Comme on jazz. Et on n'y est pas du tout.
Et oui, parce que vous parlez de Calais, vous y êtes rendu, vous avez fait des articles pour Charlie Hebdo, et là aussi, ces articles vous ont aidé à écrire ce livre, Marie Dariussec.
J'ai fait des articles pour Charlie Hebdo, pour Libération et pour Arte en ligne. Et c'est eux qui m'ont envoyé à Calais, en fait. J'y arrivais pas à aller à Calais, ça me faisait très peur. Et le reportage, vraiment le reportage journalistique, en planque à la station-service Total de la zone industrielle de Calais, avec cette incroyable ballet de gendarmes et de migrants, et de camionneurs. La réalité était hallucinatoire. C'était un délire collectif auquel j'assistais. Mais l'écrire, essayer de trouver des mots pour ces reportages très réalistes, ça m'a donné aussi accès à ce que fait Mati Diop, c'est-à-dire une forme de fantastique. La réalité est dingue. Et je crois qu'elle a une résolution filmique, narrative, qui est proche de la mienne, c'est-à-dire, il n'y a plus que la magie, d'une certaine façon, pour donner du sens. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mati Diop, qu'en pensez-vous?
Je comprends très bien tout ce que vous dites, et je vous écoute attentivement. Oui, moi je pense que le choix du fantastique, hormis le fait que c'est une réalité qui est inhérente, bah, justement, oui, aux réalités locales, qu'il n'y a pas de division entre le réel, le, oui, fantastique, entre le visible et l'invisible. Mais c'est vrai que j'ai senti qu'il fallait vraiment aborder la situation dont il était question dans mon film, ces départs en mer des côtes sénégalaises jusqu'en Espagne par ces jeunes, à travers un genre, un style qui allait permettre une distance, de prendre une distance immense, en fait, sur cette situation. Et c'est vraiment la question de la focale, de la distance, et aussi de un sujet qui a tellement été traité médiatiquement, oui. Surtraité, maltraité. Alors évidemment qu'il y a des documentaires, des articles qui m'ont éclairé, qui m'ont appris, qui m'ont donné des informations très concrètes et précieuses sur lesquelles me au-delà de l'expérience que j'ai, enfin au-delà du vécu, des rencontres que j'ai faites sur place, et puis de mon rapport surtout à cet endroit et du fait que la migration, elle fait aussi partie de moi. Je viens aussi de là, en fait, en fait, on parlait de choc des deux mondes, de collision, mais c'est vrai que en retrouvant ce pays que j'ai quitté quelques années, puisque je vis, enfin que j'ai quitté, pardon, que j'ai déserté quelques années parce que j'y allais enfant, puis plus du tout, et il y a quand même eu le choix, on est de faire retour, voilà, dans le pays de mes origines africaines, et c'est le fait d'avoir croisé toute une jeunesse qui fuyait, quittait ce pays que moi je retrouvais de manière, dans une totale circulation de mouvements d'ailleurs.
Et vous dites justement, Mati Diop, qu'il y a plusieurs choses à filmer dans ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Alors vous montrez la manière dont cette tour qui a failli avoir... qui a failli être édifiée, cette tour, dite tour Kadhafi, qui est un symbole de ce que l'Occident peut-être apporter de pire là-bas. Vous dites aussi que si on ne filme pas Dakar maintenant, on va se retrouver dans un monde où tout sera destiné aux clips de mode et à un certain nombre de scènes qui ne seront plus des scènes véritablement authentiques comme on peut les filmer aujourd'hui.
Alors, je le disais pas avec autant de gravité, mais c'est vrai que l'Afrique devient un sujet tout d'un coup extrêmement attirant. On est passé d'un territoire dont on s'est absolument désintéressé. Alors, c'est un territoire qui a été dont la représentation, l'histoire, l'image a été assez prise en otage par une autre culture. On s'en est ensuite absolument désintéressé. Puis tout d'un coup, c'est vrai qu'on assiste à un endroit qui à nouveau fait l'objet d'une forme de curiosité, d'attraction. En gros, l'Afrique est à la mode. Et voilà. Et c'est assez intéressant de s'interroger sur d'où vient cette soudaine attirance pour cet endroit. Il y a à la fois, je pense, il y a à la fois un courant qui va vraiment, celui qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire une certaine Afrique qui se repense à partir d'elle-même, que ce soit en philosophie, que ce soit à travers les arts, mais il y a aussi toute une tendance, pour le coup éphémère, je crois, qui tout d'un coup devient obsédée par l'Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Marie.
Marie Dariussec.
Moi, je suis obsédée par l'Afrique, donc j'ai beaucoup.
Pourquoi?
Mais pas seulement depuis quelques années.
Non. Ben, je sais pas, ça passe aussi par le français, par l'Afrique francophone, et puis par des amitiés, par des voyages, etc. Non, j'exagère un peu, mais plusieurs de mes romans passent par ces chemins-là. Il y a une longue histoire de violence, évidemment, et de colonisation, mais il y a aussi il y a une langue commune. Les Camerounais disent du français que c'est leur trésor de guerre, un peu paradoxalement. Et ça m'a tout simplement donné à penser, et ça m'a inspiré aussi, voilà, pour dire ce vieux mot.
Mati Diop, dans son film, raconte l'Odyssée du point de vue de Pénélope. Vous, votre roman, il s'intitule La mer à l'envers. Mmh. Pourquoi à l'envers, Marie Dariussec?
Le titre m'est venu comme ça. J'ai beau avoir été psychanalyste, j'ai pas vu tout de suite le jeu de mots, mais évidemment les lecteurs me disent la mère à l'envers. C'est vrai, c'est un roman très maternel.
Alors il y a beaucoup d'histoires de mère,
oui,
dans ce roman.
Et c'est aussi parce que j'accepte tout à fait le jeu de mots sur la mère, sur la maternité, sur cette Rose qui s'en sort pas très bien avec ses propres enfants. Enfin, elle fait ce qu'elle peut, mais qui va avoir un élan maternel. Il n'y a pas d'autre mot pour ce jeune gamin Younes qui a le même âge que son fils et qui a pas du tout le même destin. Ça la rend extrêmement sensible à une injustice profonde, évidente. Et puis la mer à l'envers, la mer Méditerranée est à l'envers. On marche sur la tête, en quelque sorte. La planète est à l'envers. Elle cherche, Rose, avec ses tout petits moyens, à remettre quelque chose debout. C'est une grande réparatrice. C'est une magicienne, justement, qui s'ignore. Elle a quelque chose, elle a une espèce de force dans les mains. qu'elle n'arrive pas à penser ni à développer à Paris, ville peut-être un peu trop rationnelle, mais que Younes aussi va l'aider à accepter, je crois.
Et puis la mer aujourd'hui, ça rime avec la mort dans le cas des migrants. Et d'ailleurs, oui. Rose va enjamber la mort.
Oui, cette croisière se passe pas du tout comme prévu. Et parmi les migrants qui montent à bord, il y en a qui sont morts en fait. Et elle avait absolument prévu ça. Et elle se retrouve à faire ce geste qui la coupe en deux, c'est-à-dire dans la cohue, elle enjambe un mort. Et vous avez raison de le souligner, c'est un passage qui est fondamental pour elle. Elle le refoule, elle y pense plus. C'est une femme assez maladroite, c'est une femme assez qui est pas armée pour tout ça, mais ça va faire retour peu à peu en elle. Et je crois qu'elle veut réparer quelque chose avec Younes, oui.
Et ce mort, ce pourrait être Souleymane, autrement dit l'amoureux d'Ada, celui qui ne lui dit même pas qu'il va partir, qui prend la mer et dont on comprend que ce trajet est un trajet fatal. Raconter l'histoire de cet homme, de Souleymane, et raconter cette absence, c'est un peu le but de votre film Atlantique, Mati Diop.
Oui. Et ça a été difficile de... Je pense que la partie du scénario qui a été la plus délicate à écrire, c'est justement à partir du moment où Souleymane et les garçons disparaissent, comment raconter la réalité et le rapport au temps d'Ada qui se dérègle, comment raconter à travers le cinéma, et en même temps c'est l'un des meilleurs outils pour le faire, l'attente, voilà,
tout le temps qui passe, c'est un énorme enjeu, et en film et en livre et en roman, ouais.
Et la manière, comme je le disais tout à l'heure, de le fantasme, la place du fantasme dans ces moments en suspens, de faire arriver, la place du fantasme et de
Le temps qui passe, la mer, vous filmez la mer, vous racontez la mer dans les deux cas. Alors bon, vous, c'est une mer qui est ensoleillée, qui est belle, qui est un peu inquiétante. Chez vous, Marie Dariussecq, c'est carrément une mer inquiétante.
Oui, alors on n'est pas sur la même mer puisque ces jeunes Sénégalais s'embarquent sur des pirogues sur l'Atlantique. Il y a les rouleaux de Dakar, il y a cette lumière poudreuse que Mati Diop filme merveilleusement. Moi, c'est cette Méditerranée malmenée. Tout le monde me parle d'Ulysse et de l'Odyssée, mais c'est pas la Méditerranée d'Ulysse. Ulysse, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui a gagné la guerre. C'est la Méditerranée de Jonas. C'est le prophète Jonas qui est dans les trois monothéismes et qui, lui, a complètement perdu espoir et il est recraché sur le rivage par la baleine. C'est Jonas, la bonne métaphore, à mon avis. Et Jonas, c'est Younes, hein, dans le monde arabe. Et je voulais raconter ça. Je voulais raconter des gens qui, à un moment, perdent totalement espoir et puis qui pour certains, accostent quand même, arrivent. Et voilà.
Qu'est-ce que vous avez pu raconter dans ce roman que vous n'avez pas pu raconter dans vos articles?
Ah, ça, c'est une grande question. La place de faire justement agir les métaphores, le rêve, de faire bouger comme ça le réel, de lui donner une force. Vraiment, j'ai assisté en écoutant parler des migrants, en particulier au Niger, des gens qui étaient revenus, ou bien à Calais, tous ces gens à qui il restait 34 kilomètres d'espoir et de fatigue. Il y avait vraiment une qualité, une espèce de qualité hallucinatoire du réel. Et dans mes reportages, je n'ai pas réussi à la rendre. J'étais trop près du sol, en quelque sorte. Dans le roman, on a la place de faire bouger les mots et d'introduire une forme de rêverie et de rendre grâce, voilà, de rendre hommage à cet incroyable espoir qui les tient. Et c'est de l'ordre d'une rêverie insensée aussi, hein.
Et qu'est-ce que ça change qu'il y ait dans ce roman Rose? Alors, dans vos reportages, il y avait Marie Dariussecq, oui. Mais il n'y avait pas Rose. Oui. Qu'est-ce que ça change que là, elle soit non seulement mise en scène, mais c'est elle le pivot de votre
roman?
Oui,
c'est un personnage, c'est-à-dire c'est moi sans être moi. Moi, on s'en fiche. Et dans mes reportages, le problème, en quelque sorte, c'est que ça m'est difficile de ne pas donner mon opinion, ou de ne pas être dans une espèce d'empathie personnelle. Rose, c'est pas moi, au sens où elle vit... Elle fait autrement, sans doute, que moi je ferais, et je peux lui faire porter d'autres femmes. Beaucoup de gens se reconnaissent dans cette femme, hommes et femmes, et c'est la force du roman. C'est cette ambiguïté. Je ne dis Je ne dis pas ce que je pense d'elle. Je ne dis pas ce qu'on doit faire. Je ne donne pas de solution. Je ne fais pas de... Dans le reportage, il y a toujours une petite partie très morale, je trouve, qui est difficile à éviter. Un roman, non, ça se passe ailleurs.
Et le fait d'utiliser le cinéma, de traiter de cette question dans une fiction, Mati Diop, c'est quelque chose qui vous a permis de donner un jugement, de faire des choix. Bref, qu'est-ce que ça vous a permis de faire ?
Déjà, j'ai l'impression que dans Atlantique, le court-métrage de 15 minutes que j'ai réalisé en 2008, même s'il était très court, à travers le récit de Serine, qui est partie de son expérience et qui est devenue, dans le développement de son histoire, un grand récit épique, je pense qu'on peut raconter énormément de choses en très peu de temps. Ça dépend vraiment de qui on filme, comment on le filme et de comment la personne se raconte à l'intérieur du cadre. J'ai voulu faire un long métrage parce que j'avais besoin d'une amplitude et d'une dimension extrêmement romanesque. J'avais besoin vraiment de retrouver de la fiction, du romanesque, du fantastique dans des autour de situations et d'histoires qui sont souvent cantonnées à une information de souffrances qui ont été énormément traitées dans les reportages, qui ont été surtraitées, encore une fois maltraitées par les médias, et c'était important de comme donner un droit à la fiction, à l'Afrique, un droit à la fiction, quoi.
Marie Dariussecq.
Non, moi, les jeunes gens que j'ai rencontrés à Calais en particulier, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire, c'est pas des victimes. Ils veulent pas qu'on les voit comme ça. Et avec mon personnage de Younes, j'ai aussi voulu leur rendre cette force incroyable qu'ils ont. Ce sont des jeunes gens qui partent à l'aventure. Et comme ils m'avaient dit avec beaucoup de simplicité, certains d'entre eux, ils veulent voir du pays comme nous, en fait. Et ils le font comme ils peuvent. Et c'était aussi une forme d'hommage.
Je voulais terminer en vous entendre une partie de la bande son d'Atlantique, très belle bande son. Qu'est-ce qu'on entend, Mati Diop ?
C'est un morceau qui s'appelle Yelwa de Fatima Al-Kadiri, qu'elle a pas composé pour le film, qui existait déjà. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que j'ai comme deviné il s'agissait d'une chanson qu'elle a écrite, qui parlait d'un mariage, sauf que quand elle me l'a fait écouter, je ne savais pas qu'elle l'avait écrit autour d'un mariage. Et il y a une dimension cauchemardesque que j'ai voulu insuffler à cette scène. C'était très délicat de filmer cette scène sans apporter un regard trop... Comment dire ? La question du regard colonial, elle est importante à être posée en permanence quand on filme là-bas. C'est difficile de filmer à Dakar, en Afrique. Ouais, je peux pas développer. Bon, moi, je suis désolée. Alors,
je suis désolée.
Il vaut mieux aller voir le film, je pense.
Mati Diop en salle. Marie Dariussecq, La mer à l'envers.